Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour et bienvenue dans cet Au fil des pages consacré à la crémation, dans le contexte bien sûr de la fête de la Toussaint et du lendemain, qui est le jour des morts, 2 novembre. Un jour important pour les Français, d'ailleurs on constate que la présence est réelle dans les cimetières. C'est donc que c'est une tradition à laquelle nos contemporains sont attachés. Néanmoins, quand on parle de tradition sur ce terrain-là, il faut savoir de quoi l'on parle, parce que les mentalités évoluent et on assiste depuis déjà un certain nombre d'années, une quinzaine d'années à peu près, à une montée en puissance de la crémation. C'est un phénomène qui nous ramène évidemment à l'idée de savoir où en sont nos rites funéraires, que sont-ils devenus, comment évoluent-ils, quelles sont les idées qui président justement à la façon de concevoir sa mort et la façon de disparaître de ce monde. Eh bien, on va en parler avec un spécialiste de ce domaine-là, que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Damien Le Guay, philosophe, vice-président du Comité national d'éthique du funéraire, maître de conférences à HEC, qui a publié de nombreux ouvrages, dont certains ont trait à la mort, précisément. Là, il s'agit de la mort en cendres. La crémation aujourd'hui, que faut-il en penser? C'est dans la collection Histoire à vif, aux éditions du Cerf. Bonjour Damien Le Guay.
Bonjour.
Alors, je voulais commencer par un petit détail sémantique. Bon, le mot crémation est à peu près connu du grand public, le mot incinération également, le mot incinéré, donc le verbe qui va avec incinération. Est-ce qu'il y a un verbe qui va avec crémation? Il y a des néologismes crématisés? Qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas cramer quand même?
Non, justement, pour éviter ce genre de sujet-là, disons que tous ces termes-là sont à peu près équivalents. Je pense qu'il faut distinguer deux choses qui sont fondamentales si on veut distinguer. La première chose, c'est une modalité de crémation qui est religieuse, celle d'Homère, celle des Japonais aujourd'hui, et donc qui est une crémation, disons religieuse, voilà, qui s'inscrit dans un contexte religieux. Et puis, alors appelons ça une crémation
laïque,
non, ou sèche, ou sans rituel, sans fioriture, c'est celle effectivement que nous constatons aujourd'hui en France et qui se développe considérablement. Donc, si on veut faire des distinguos, et il faut en faire, ce distinguo-là, entre la crémation religieuse et celle qui ne l'est pas du tout, crémation nihiliste, crémation sans rien, voilà, c'est, me semble-t-il, cette distinction-là qui est la plus judicieuse.
Mais alors, il n'y a pas de terme pour justement distinguer ces deux formes de crémation.
Non.
Aujourd'hui, il n'y en a pas.
Non, il n'y a pas de distinction. C'est pour ça que quand on parle de crémation, on mélange toujours un peu tout. Et comme vous l'avez vu dans mon livre, je ne m'en prends pas à la crémation, j'interroge les raisons pour lesquelles les Français souhaitent la crémation.
Alors, la crémation en soi, c'est brûler un cadavre, tout simplement, le réduire en cendres, brûler un corps. Bon, on ne dit pas incinérer un corps, si ça... Ou c'est une confusion? Parce que normalement, l'incinération, paraît-il, l'usage veut que ce soit attaché aux déchets. Donc ce n'est pas rien quand même quand on utilise un mot pour un autre, surtout non, l'Académie française.
Oui, absolument. Non, si vous voulez, il y a... Alors, en termes techniques, il y a deux distinguos aussi à faire. Si on rentre dans la technique du corps brûlé, incinéré, vous avez d'une part effectivement la crémation antique ou la crémation indienne aujourd'hui, qui suppose de mettre donc le corps sur un bûcher, donc in fine, d'avoir des cendres qui sont à la fois des cendres de bois et à la fois des cendres du corps. Bon. La crémation moderne, telle qu'elle est apparue vers 1880 en Italie, puis en France, et puis qu'est-ce qui s'est développé un peu partout, elle suppose donc que la crémation du corps, voilà, se fait par combustion. Il n'y a pas de flamme, simplement c'est un four qui est chauffé.
850 degrés.
Entre 850 et 1200, donc des briques réfractaires, et donc le corps est incinéré, donc brûlé par la chaleur ambiante et sans qu'il y ait de bois.
Mais est-ce qu'il y a une forme de réification dans le terme d'incinéré quand on pense à une usine d'incinération de déchets?
Alors,
dans l'esprit.
Moi, j'ai évité, si vous voulez, parce que je trouve qu'on peut facilement, quand on veut travailler un sujet, on peut facilement tomber dans des allusions ou dans des références qui sont peut-être pas de bonne aloi pour tous ceux qui, en l'occurrence pour la crémation, sont passés par la crémation. Effectivement, il y a les incinérateurs, il y a les fours crématoires de triste mémoire, il y a les déchets, etc. Bon, donc laissons tout cela de côté. C'est vrai que parfois, on voit que dans certaines villes, les fours de crémation, comme on dit maintenant, sont mis dans des endroits un peu reculés, lointains, ressemblant à des déchets. Bon. Moi, il m'a semblé que le plus important était de réfléchir, d'une part, aux intentions, et deuxièmement, effectivement, à cette idée, et c'est ce que vous dites à l'instant, cette idée du déchet. pourquoi souhaite-t-on, parce qu'il y a un réel désir, pourquoi souhaite-t-on devenir le plus rapidement possible, descendre, donc c'est-à-dire passer, disons, de 80 kilos ou 90 kilos à 3 kilos, encombrer le moins possible, être dans des urnes contenant des cendres qui, par définition, sont anonymes, donc il n'y a aucun signe distinctif de la personne. Voilà.
Et pas de nom.
Et un nom, évidemment, sur l'urne. Mais il n'y a aucun élément. Je dis ça pour une raison simple, c'est que il se trouve que récemment, donc, j'ai été reçu par Dalil Boubekir, le recteur de la
mosquée de Paris.
De la mosquée de Paris, qui me disait que...
De l'Institut musulman de la mosquée de Paris, pour être précis.
Voilà, qui me disait que pour les musulmans, leur opposition forte à l'égard de la crémation tient justement à cela. C'est qu'il importe pour Dieu de trouver trace de la personne. Et que la crémation, donc, supprime toutes les traces aujourd'hui, demain, de quoi que ce soit. Ça, c'était sa première opposition. Et la deuxième raison qu'il a avancée, je me permets de le dire dans le débat parce que c'est important, c'est, et il reprenait une discussion qu'il avait avec un rabbin, et de ce point de vue-là, tous les deux étaient d'accord, c'est que le corps reste, pour les juifs comme pour les musulmans, reste la somme d'une vie, la totalité de la vie, et le seul point de jonction entre les individus qui a été aimé, vu, etc. Donc quelque chose comme une mémoire accumulée de la vie des individus qui se retrouve dans le corps et qui donc se doit d'être respecté en tant que tel.
On va revenir sur ce désir de crémation, qui est d'ailleurs un chapitre, hein, vous le dites, avant la crémation, le désir de crémation.
Absolument.
Mais puisque vous avez attaqué Damien Leguet par l'aspect religieux, musulman et juif, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce qu'en pensent les chrétiens, catholiques, protestants ?
Alors, les protestants sont libéraux, enfin en cette matière-là, comme en beaucoup d'autres, donc c'est non seulement accepté, mais pratiqué depuis longtemps. Les catholiques, eux, ont été en 1885 farouchement opposés à la crémation parce que celle-ci, historiquement, était liée à des revendications de francs-maçons, de libre-penseurs, etc. Donc, allait à l'encontre frontalement de l'Église. Puis, en 1963, un décret est paru qui, alors contrairement à ce qu'on pense, n'accepte pas la crémation, ne valorise pas la crémation, ne pousse pas à la crémation, mais la tolère. Et dans le corps même du dit décret, il est dit que l'Église a toujours favorisé l'inhumation, que son mode naturel de sépulture, c'est bien l'inhumation, mais qu'il est dit depuis toujours que la puissance de Dieu étant infinie, donc la résurrection des corps, pour ceux qui passent par la crémation, pourra se faire. Donc c'est bien un décret et donc un régime de tolérance et non pas d'acceptation.
Néanmoins, cet aspect peut paraître un peu concessif. Pourquoi cette concession et pas une interdiction comme les juifs et les musulmans, à votre avis ?
C'est une vraie question que je ne me pose pas dans le livre, mais que j'ai depuis. C'est la chose suivante.
Ça vous travaille ?
Oui, pour une raison simple, c'est qu'il est vrai que, disons, plus que les deux autres religions dites monothéistes, le christianisme insiste beaucoup sur le corps. L'incarnation, le corps du Christ, l'Église comme corps, la résurrection des corps.
Le verbe s'est fait chair,
etc. Bon, donc le corps, on peut dire que des trois monothéismes, le christianisme est celui qui insiste le plus sur le corps avec cette hérésie d'un Dieu devenu homme. Voilà, qui fait scandale, comme disait saint Paul. Bon, donc il y a quelque chose, voilà. Pourquoi effectivement cette valorisation du corps, cette importance du corps ne va pas jusqu'au bout de cette logique en effectivement s'alignant sur l'interdiction forte et majeure des juifs orthodoxes et des musulmans quant à l'interdiction de la crémation. Je ne sais pas, il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'effectivement, la puissance de Dieu étant infinie, rien ne s'oppose à ce que la résurrection puisse se faire. Ça, c'est l'argument théologique. Et le deuxième, c'est que donc on est entre deux sessions de Vatican II et que donc, à ce moment-là, disons, une certaine forme d'ouverture au monde se fait donc qu'une certaine tolérance a pu naître. Il faut dire qu'en 1963, dans les pays catholiques, la crémation était groupusculaire, elle n'existait pas.
0,2%.
Rien du tout.
Aujourd'hui, combien ?
Aujourd'hui, en France, 30%. On pense que d'ici quelques années, assez vite, on sera à 50%. Donc c'est quelque chose qui est devenu effectivement majoritaire. Mais dans les pratiques, les pays catholiques sont ceux qui résistent le plus à cette pratique, alors que les pays protestants, pour nous...
L'Italie surtout résiste.
Voilà. Alors que dans les autres pays d'Europe, les pays protestants, eux, ont plus facilement basculé de ce côté-là. Et donc, comme je l'ai dit, je ne parle pas, bien qu'on puisse le faire, du Japon, de l'Inde, où ces pratiques-là sont fondamentalement ancrées dans une tradition religieuse et donc dans un rituel et donc dans une symbolique et donc dans une croyance dans un au-delà.
Vous avez commencé d'ailleurs par cette opposition. D'un côté, la crémation qui est ancrée dans un rituel séculaire et de l'autre, la crémation qui est en fait le signe d'une déculturation, d'un abandon de la culture religieuse.
Exactement.
Un mouvement inverse pour le même acte.
Exactement. Parce que dans mon livre, j'indique qu'il y a donc ce que nous connaissons en France et donc dans une partie de l'Europe, ce que j'appelle une crémation de troisième type, donc plus nihiliste, liée à la fatigue des individus, à cette incapacité à entrevoir un avenir commun entre les vivants et les morts. Pourquoi dis-je cela ? C'est que si on interroge effectivement, et vous avez fait allusion à un de mes chapitres qui s'appelle « Désir de crémation », si on interroge les Français, ceux qui souhaitent, et c'est absolument essentiel et c'est au cœur de mon livre, si on demande aux Français pourquoi est-ce qu'ils veulent être crématisés, ceux-ci répondent donc qu'à 59%, ceux-ci le souhaitent pour deux raisons.
Désir d'oubli, c'est pas la première.
Avant tout, le premier, c'est ne pas être à la charge de leur famille. Ne pas être à la charge de leur famille. Et le deuxième, c'est ne pas polluer. Donc, d'une part, les Français ont conscience... De ne pas polluer la nature, ne pas...
Voilà, pour des raisons écologiques. Quand on retrouve l'humus, inhumation, humus,
exactement.
On pollue.
Exactement. La pollution, la dégradation, la corruption du corps, la putréfaction, etc. Tout cela peut porter atteinte et porte atteinte, tel est du moins ce qu'en disent les Français, donc à la nature. Donc, pour ces deux raisons-là, et c'est, me semble-t-il, une forme de révolution, soyons un peu pompeux, mais c'est pas complètement faux.
Anthropologique.
De considérer que les vivants pensent que le monde de demain, celui qui sera celui de leurs enfants, ne sera plus le leur, qu'ils n'y auront plus leur place et que leur corps mort sera trop encombrant et que leurs familles ne s'occuperont plus d'eux.
Mais Damien Legay, vous nous dites en fait que la crémation, c'est une démarche altruiste qu'il explique. Parce que je ne veux pas peser sur les autres et je ne veux pas être à la charge des générations futures.
Alors voyons-le de façon positive comme une démarche altruiste, voyons-le comme une façon moins positive, comme une rupture très forte dans la transmission des générations. On reste sur l'idée que, effectivement, les vivants rendent hommage aux morts, que les morts font partie de la communauté du monde, des vivants et des morts, et que cette cohabitation-là permet aux vivants de mieux vivre. Voilà, c'est, disons, cette anthropologie qui a débuté, pour le faire simple, il y a 100 000 ans, nous dit Edgar Morin, quand le premier homme a enterré le premier homme, et qu'à partir de ce moment-là est née la mémoire, l'histoire, l'art, la culture, la religion, enfin bref, tout ce qui accompagne et non pas s'oppose à la mort. Voilà. Donc ce geste-là, on peut considérer qu'aujourd'hui, en France, dans nos pays, dans les pays chrétiens, post-humanistes et post-chrétiens, quelque chose est en train sans doute de se fermer, de se clôturer de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde de demain est conçu par les gens d'aujourd'hui comme inhospitalier. Il ne sera pas le leur. Et leur famille sera indifférente à eux, à leur mémoire et à leur place, etc. Donc on est en rupture complète avec, pour prendre le cas de pays aujourd'hui qui pratiquent la crémation, le Japon. On est en rupture complète avec ce qui nous a précédés dans cet ajustement affectif, cordial, entre les générations passées et les générations futures.
Damien Legay, La mort en cendres aux éditions du Cerf, on marque une pause.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazot, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Retour dans Au fil des pages avec Damien Legay, philosophe. La mort en cendres, la crémation aujourd'hui. Que faut-il en penser aux éditions du Cerf, la fête de la Toussaint, le jour des morts, le 2 novembre. Chaque année, c'est une date qui revient, qui n'est pas anonyme dans le cœur des Français. Alors on essaie de comprendre, évidemment, le sens de la crémation. 30% des Français y recourent. On estime, c'est vous qui le dites Damien Legay, que les chiffres vont dépasser peut-être les 50% dans les années qui viennent. Je rappelle également que vous êtes vice-président du Comité national d'éthique du funéraire et on imagine que toutes ces questions sont au cœur également des préoccupations de tous ceux qui s'occupent de la fin de la vie. Vous citez Louis-Vincent Thomas, on va repartir là-dessus. Mmh. « La culture n'est rien d'autre qu'un ensemble organisé de valeurs et de structures que la société s'invente pour s'affirmer malgré la mort et contre la mort. » Vous avez un chapitre assez touchant sur le fait que vous citez également... si je puis dire, à l'appui de votre démonstration, on a Proust également que vous citez. Vous citez également des auteurs antiques. Et puis on a la chef de Monsieur Seguin, tout simplement. L'idée aristocratique de mourir, de lutter absolument pour l'idée que je me fais de moi-même. Et puis l'idée de ne plus lutter finalement et d'en finir le plus vite possible. Ça, ce sont deux conceptions de la mort qui s'opposent.
Alors, c'est qu'effectivement, je suis reparti de la chef de Monsieur Seguin en me demandant comment la chèvre de Monsieur Seguin pourrait mourir aujourd'hui. La chef de M. Seguin, si on s'en souvient bien, c'est bien cette idée qu'il importe de singulariser sa mort, de lutter jusqu'au bout contre la mort, d'avoir un geste héroïque. Et la mort héroïque, une façon héroïque de mourir, de lutter le plus possible contre la mort, c'était, disons, nous dit Philippe Ariès, l'idée traditionnelle que nous nous faisions de la bonne mort, la mort qui était singularisée, signée, par un individu particulier. Bon. Et j'ai imaginé qu'effectivement, aujourd'hui, au regard de ce que souhaitent les Français souhaitent majoritairement mourir, non pas comme autrefois, mais dans leur sommeil, de manière anonyme, que la chèvre de M. Seguin, confrontée au loup et sentant effectivement l'inévitable arriver, se serait couchée assez rapidement pour s'adonner le plus rapidement possible à la mort sans aucune lutte particulière. Voilà. Donc, il me semble qu'il y avait quelque chose comme cela qui montre bien que la crémation, et c'est le début de mon livre, vient au bout d'une histoire de la mort qui est entrée de plus en plus dans un souci d'anonymat, dans un souci de faire taire tout ce qui peut être dit autour de la mort et dans un souci, pire encore, de ne pas réserver ce temps-là à la parole, à l'échange, à la transmission. Voilà. Nous sommes de plus en plus, nous dit par exemple un aumônier qui s'appelle Léon Burdin, nous sommes de plus en plus dans une mort aphone qui ne se parle plus, qui ne se dit plus, qui ne cherche plus, qui n'impose plus aux individus de se hisser à hauteur de l'événement. Et donc, je considère dans ce livre que, effectivement, la crémation, c'est le point ultime de cette anonymisation, excusez-moi de ce barbarisme, de la mort qui a pris différentes étapes. Et cette étape-là étant, me semble-t-il, la dernière dans nos pays.
C'est un peu l'idée être ou ne pas être, finalement. Quand on est jusqu'au bout.
Exactement. Être ou ne pas être. Mais être ou ne pas être veut dire aussi trouver sa juste signature de son vivant et au moment de sa mort. Voilà. Et être jusqu'au bout, ça veut dire aussi essayer, comme vous avez le gentil de citer un certain nombre d'auteurs que j'ai pu effectivement citer. Je cite aussi Rilke, qui montre bien dans son œuvre qu'il y a une envie forte chez nous d'avoir une mort singulière. Voilà. Et cette mort singulière, eh bien, elle disparaît de plus en plus dans nos consciences au profit d'une mort de plus en plus anonyme. Et la cendre est bien ce qu'il y a de plus anonyme dans l'anonymat de la mort.
Comment expliquez-vous que cet anonymat de la mort progresse alors que la société se fait l'écho de quantité de revendications autour de la différence, de la singularité, pourrait-on dire, de mon envie d'exister par moi-même et que même l'économie, la société de consommation essaie de valoriser au maximum cet individu, l'image de l'individu. Pourquoi tout s'effondre-t-il finalement à la fin de la vie ou pour la fin de la vie ?
Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qu'a bien analysé un philosophe sociologue qui s'appelle Marcel Gauchet, qui dit que nous sommes passés dans un nouvel âge de l'individualisme. Il y avait avant, disons avant les années 70, pour faire simple, il y avait un individualisme d'affirmation. Je m'affirmais singulier, non déterminé par mes conditions sociales, etc., etc. Bref, donc je m'affirmais, ce qui était une bonne chose, au détriment d'une société qui pouvait m'enfermer dans tel rôle plutôt que dans tel autre. Bon. Et Marcel Gauchet dit, nous sommes passés de cet individualisme-là à un autre qu'il appelle l'individualisme de déliaison. C'est-à-dire qu'il importe de me délier, de me séparer, de montrer que je ne suis pas englué, pour prendre un terme sartrien, dans des affections, dans des liens, dans ce que vous voulez, et que donc je m'affirme libre en me déliant, comme si je jouais aux cartes et qu'en permanence je reprenais mes cartes et je rejouais à nouveau sans me sentir lié par quoi que ce soit. Ni par mes affections, ni par mes liens, ni par les contrats que je peux passer, ni par les enfants que je peux avoir ici ou là. Bref, voilà. L'affirmation de la liberté qui passe par la déliaison. Et donc, il me semble que la mort aujourd'hui est d'une certaine façon le point ultime de cette déliaison-là. Je prends un exemple qui est symptomatique. Il y a donc un manuel, je vous fais grâce de son nom, américain de psychologie qui fait autorité et qui dit qu'au bout de 3 mois, le deuil, 3 mois, non pas 5 ans, 3 mois, le deuil devient pathologique. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, si on n'a pas fait le deuil, entre guillemets, de son conjoint, de son père, de sa mère, le deuil devient pathologique et on peut effectivement se faire soigner. Donc on est bien dans l'idée moderne, post-moderne, post-post-moderne, que de cette façon, nous ne sommes plus attachés à personne et que nous pouvons assez rapidement nous défaire, nous délier de liaisons que nous avons contractées sans considérer la lourdeur des attachements, la pesanteur de nos liens et, pour dire ça en termes de Paul Ricoeur, l'ensemble des récits qui nous constituent et qui nous viennent des autres.
Oui, mais alors, Damien Le Gay, là, je reviens à la crémation directement.
Allez-y, je vous en prie.
Quand on procède à ce type de technique funéraire, on termine donc dans une urne qui se caractérise, vous le dites d'ailleurs, par la mobilité. On pourrait d'ailleurs dire, avoir une métaphore économique sur la délocalisation de la mort, etc. L'urne, on peut l'emporter avec soi, et donc il y a une forme de présence. Alors certes, vous dites aussi que ça se retrouve, parfois il y a des abus, surtout en France, parce que la législation n'est pas très claire, et qu'on peut retrouver les urnes dans des vide-greniers, ce qui évidemment représente un abus. Mais globalement, l'urne peut permettre aussi une proximité entre les vivants et le défunt, on peut l'imaginer. Donc pourquoi sommes-nous dans une logique de déliaison quand on procède à la crémation, et pas lorsqu'on est enterré dans un cimetière? Pourquoi est-ce que ça serait plus fort dans un cimetière, dans la terre, que dans une urne?
Il y a deux choses. La première qu'il faut bien comprendre, c'est que la crémation donc, de toutes les formes d'obsèques qui existent en France est celle qui est la moins ritualisée et la moins religieuse. Deuxième chose, pour que nos auditeurs comprennent bien, en 1976, il y a eu deux perturbations anthropologiques fortes qui sont intervenues à 6 mois d'intervalle. La première, donc l'interruption volontaire de grossesse, donc qui a perturbé le lien que l'on considère comme ancestral entre le ventre, disons, et le berceau. Et 6 mois après, un décret donc a autorisé la libre circulation des cendres, c'est-à-dire ce lien ancestral que l'on constatait entre le lit du décès, du chevet, et puis le cimetière, a été lui aussi perturbé. Donc en France, contrairement à d'autres législations, et dans mon livre, je milite pour qu'effectivement nous puissions nous aligner en ce qui concerne la crémation sur, par exemple, la législation allemande qui, elle, dit que s'il y a crémation, l'urne va obligatoirement, ce qui est le cas au Japon aussi,
au cimetière.
Donc en France, c'est un cas particulier. Les choses ont un tout petit peu changé depuis 2008 quand le sénateur Sueur et donc le Sénat et donc l'Assemblée nationale ont fait des restrictions là-dessus, mais disons depuis 30 ans, après, c'est plus compliqué dans les applications, mais depuis 30 ans, il y a une libre circulation effectivement des urnes qui fait que, et je calcule dans mon livre, il y a à peu près 2,5 millions d'urnes, on ne sait pas très bien où elles sont. Elles n'ont pas d'assignation à résidence bien précise. Et donc, elles sont au cimetière, mais elles ne sont peut-être pas au cimetière, elles sont sur la cheminée, etc. Troisième point de votre question. Alors, il y a une chose qu'il faut bien prendre en considération dans ce lien et dans cette déliaison dont vous parlez. Les anthropologues insistent beaucoup sur une fonction intangible des obsèques. Les obsèques sont là pour séparer les vivants des morts, pour montrer toute l'affection que l'on a à l'égard des morts, certes, mais surtout pour rattraper d'une certaine façon le vivant endeuillé, pour éviter qu'il soit entraîné, directement mais surtout indirectement, dans le tombeau, dans la terre, attiré par ce mort qui a été essentiel à sa vie. Donc il y a bien une frontière à établir entre les vivants et les morts et chacun dans son monde. Voilà. Toute confusion de frontière, toute confusion de place, toute confusion d'emplacement est préjudiciable aux vivants, évidemment, qui sont chez eux ou pas chez eux. Quand vous avez votre grand-mère dans une urne sur la cheminée, vous êtes chez vous ou vous êtes chez elle? Elle est là ou elle vous envahit? Elle est à distance ou elle est tellement là que finalement, vous n'arrivez plus à vivre.
Donc, psychose d'Hitchcock, un peu.
C'est surtout une psychose, si vous voulez, de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, empêche la séparation et la bonne mise à distance. Les morts sont avec les morts et les vivants avec les vivants pour que les vivants puissent rendre hommage aux morts là où ils sont et que les vivants puissent reprendre vie retrouver le désir de vivre qui les a un peu quittés ou qui étaient un peu endeuillés par, effectivement, le deuil qu'ils ont subi. Donc cette distinction, cette frontière, cette séparation, elle est absolument vitale. Et je renvoie nos auditeurs aux travaux de Patrick Baudry en particulier sur cette question majeure de la place des morts et de la place des vivants.
Deuil, ça veut dire douleur et duel. Vous voulez expliquer ?
Exactement. Et c'est ça qui est absolument essentiel, c'est qu'on peut considérer que le deuil, finalement, ce n'est pas grand-chose. Mais douleur et duel, c'est les deux étymologies du mot. Douleur, c'est ce que nous ressentons effectivement quand quelqu'un qui nous a aimés, que l'on a aimé, qui nous constitue, etc., bref, n'est plus là ou n'est plus là comme on le pensait, ou est ailleurs et on ne sait pas très bien où, ça c'est la première chose. Donc il y a bien un travail à faire sur cette mémoire douloureuse qui est en nous, sur ce poids de douleur mort en nous qui pèse sur notre vie, d'une part. Et deuxièmement, vous avez raison, deuxième étymologie, duel. Qui dit effectivement séparation, dit duel. Duel avec le mort, pour éviter que le mort ne nous entraîne, revienne, considère qu'il est chez lui, chez nous, qu'il peut parler à ma place. Et je me référerai juste à une discussion que j'ai eue avec le grand rabbin Bernheim, qui disait « Honore ton père et ta mère » veut dire « Kavod, poids, gloire » veut dire que chacun trouve son juste poids, le poids des vivants et le poids des morts, pour éviter que les morts écrasent les vivants ou pour éviter que les vivants soient trop légers par rapport aux morts ou trop lourds pour écraser les morts. Trouver chacun son juste poids, et cela suppose un duel.
Le législateur n'a pas mené cette réflexion, Damien Legay ?
Le législateur, pendant 30 ans, n'a rien fait, et en 2008, effectivement, a commencé à se saisir, grâce, comme je l'ai dit, au sénateur Sueur, qui milite depuis longtemps pour que quelque chose...
Mais il est tout seul, hein ?
Que quelque chose se fasse. Il est un peu seul, enfin, ça a été voté quand même, voilà, mais il est un peu seul. Et donc, quelque chose a effectivement été établi en 2008. Bon, il faut maintenant mesurer les conséquences de cela, voir si ça modifie considérablement cette délocalisation des urnes. Nous ne sommes pas dans l'alignement à l'allemande tel qu'il me semble que l'on pourrait aspirer à cela légitimement. Et quand je dis allemande, je peux dire aussi japonaise, parce que c'est la même chose. Donc nous sommes dans une chose un peu intermédiaire qui reconnaît, et c'est le grand avantage de cette loi 2008, qui reconnaît la dignité des cendres qui avaient été considérées comme beaucoup moins importantes que les restes humains tels que ceux qui résident effectivement dans les cimetières avec le corps.
Une question un peu plus personnelle pour conclure, Damien Legay. Est-ce que pour vous, la façon d'envisager la mort reflète la manière de concevoir sa vie ?
Évidemment. C'est là où il faut, me semble-t-il, être clair. Soit on considère que la fin de vie, c'est quelque chose qui viendra à la fin, puis on verra bien ce qui se passe. Soit on considère que la façon dont on traite nos morts est une façon dont on se traite soi-même. Et il me semble, pour le dire d'une phrase, il me semble que le caractère de plus en plus inhumain de la vie que nous vivons, le monde de plus en plus immonde.
La brutalité
des situations que nous connaissons, cette mondialisation qui nous confronte comme ça à des forces qui nous dépassent, ce sentiment d'isolement que nous connaissons, nous, individus modernes, tout cela, évidemment, me fait penser que si nous acceptons en Occident si facilement, comme je l'ai indiqué au début, de devenir déchet, et quand je dis déchet, ça veut dire déchet ultime, ça veut dire cendre, ça veut dire anonymat, ça veut dire celui qui n'a pas sa place. C'est bien qu'il y a une vaste question qui est évoquée par ce sujet et qui mérite réflexion, à savoir, est-ce que le monde qui est là est le nôtre ou sommes-nous en trop des surnuméraires vivants et des déchets une fois morts ?
Merci beaucoup Damien Legay, philosophe, la mort en cendre. La crémation aujourd'hui, que faut-il en penser ? C'est aux éditions du Cerf dans la collection L'Histoire à vif. Damien Legay, philosophe, vice-président du Comité national d'éthique du funéraire et maître de conférences à HEC. Merci beaucoup.
Merci.